Vous écoutez On lit pour vous.
Qu'est-ce qu'une belle ville? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 août 2024 dans Le Devoir. Les Jeux olympiques de Paris ont été une fête paradisiaque. On a eu droit au Grand Palais, fastueux legs de la Belle Époque, comme écrin de verre et d'acier des compétitions d'escrime et de taekwondo. À la place de la Concorde et son célèbre obélisque métamorphosé en parc urbain pour les épreuves de BMX, de breaking et de planche à roulettes. À la féerie Tour Eiffel en fond de scène pour le volley-ball de plage. Au jardin de Versailles aussi, évidemment, prodigieux palais pour les compétitions d'équitation. Ces Jeux olympiques devaient être les plus beaux de l'ère moderne, dans ce qui pourrait bien être la plus merveilleuse ville du monde, a résumé le chroniqueur Bruce Arthur du Toronto Star dans son bilan de l'éblouissant rassemblement planétaire. Comme les JO eux-mêmes, Paris vous enveloppe et, au bout d'un moment, vous commencez à vous demander ce qu'il pourrait bien exister d'autre. On le sait, ce sera à Los Angeles, en 2028. Après le rêve français, cette suite américaine pourrait s'avérer cauchemardesque du point de vue esthétique. Avant même la fin de Paris 2024, des commentateurs californiens ont commencé à se désoler en pensant au décor que leur empire du char, Motor Dome, offrira dans 4 ans, essentiellement des stationnements de Walmart et des autoroutes à 20 voies. L.A. est trop laide pour accueillir les Olympiques, a résumé la journaliste Jeannette Marantos dans le Los Angeles Times. Pour elle, le message livré par les environs de l'aéroport de sa ville se résume à cette formule « Bienvenue en enfer ». On connaît la désolante rengaine à Montréal, où les médias traditionnels et sociaux déverse ad nauseam des critiques de la ville jugée sale, laide, toujours en chantier et pourtant jamais améliorée. En revenant de vacances au Japon, où les trains arrivent à la seconde près, le chroniqueur Olivier Niquet a raconté sur le site Web Urbania avoir mis 2 heures à rentrer chez lui en taxi. « Tu sais, j'arrive de Rome ou de Paris », a lancé le metteur en scène Serge Denoncourt à la radio de Radio-Canada au début de l'été. « Je n'ai pas de mots pour te dire comment Montréal est laide. On ne peut pas dire « crime contre l'humanité », mais on n'est pas loin. » Bienvenue dans un autre enfer. 1 pour 7. On résume. Los Angeles est laide, Montréal est laide, mais Paris, elle, est belle et même sublime. Sur quels critères reposent ces jugements de goût? C'est pour creuser cette très profonde question que l'architecte parisien Alexandre Labasse a organisé l'exposition « La beauté d'une ville » en 2021-2022 au pavillon de l'Arsenal qu'il dirigeait alors. L'Arsenal, situé dans le 4e arrondissement, est le centre de documentation et d'exposition en urbanisme de la capitale française. J'ai réalisé cette exposition exactement pour tenter de définir ce qui faisait la beauté d'une ville, mais aussi pour démontrer que cette qualité ne se résume pas au « j'aime ou j'aime pas » qu'on entend partout, explique Alexandre Labasse au Devoir, en entrevue via visioconférence. C'est un peu le genre de critique qu'on a eu sur les réseaux sociaux avec le hashtag Saccage Paris notamment. Nous avons essayé de sortir des appréciations subjectives pour établir des critères objectifs afin de définir ce qui fait la beauté d'une ville. La synthèse, publiée aussi en livre, s'appuie sur les réflexions d'une 60aine de fins connaisseurs d'architectes, d'urbanistes, d'artistes, d'historiens, de paysagistes, de philosophes ou de sociologues. Un pied dans l'histoire, l'autre dans les mutations à venir, l'aéropage a fait consensus autour de 7 critères. D'abord le site. De Paris, dominé par la Seine, et Montréal, par le fleuve et la montagne, à LA, marqué par l'océan. Ensuite, la morphologie, soit l'équilibre proposé par le grand assemblage des bâtiments neufs et vieux dans la composition urbaine. Troisièmement, le paysage, celui du piéton qui arpente les trottoirs et les places, croise des couleurs, des matériaux, des formes. La quatrième dimension concerne les architectures et la cinquième, la place du vivant, dont la verdure, de plus en plus cruciale face au changement climatique. Viennent ensuite les externalités pratiques, dont les transports, qui rendent possible la vie agréable, sécuritaire et efficace. Le dernier critère se rapporte à l'hospitalité, soit la capacité de la ville à accueillir les gens. La ville doit être faite pour ceux et celles qui l'habitent de jour comme de nuit, enchaîne M. Labasse. Paris, une petite ville de 105 km², c'est 2,2 millions d'habitants qui y résident et 3,6 millions d'habitants qui y viennent chaque jour. Vous écoutez « Qu'est-ce qu'une belle ville ?» un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 août 2024 dans Le Devoir. On s'est beaucoup posé la question « Comment laisse-t-on les gens interagir avec la ville ?» et « Comment les laisse-t-on décider de l'espace public de demain ?» Il ne faut pas seulement une vision top-down qui viendrait s'appliquer à tous. Dans l'autre sens, il faut permettre à chacun de fabriquer la ville. C'est ce que la municipalité parisienne essaie de faire depuis une quinzaine d'années. Ce qui entraîne des tensions, évidemment, et encore des critiques. Les Parisiens en voiture ou en camion râlent beaucoup contre les vélos. Seulement, ils oublient que les 2/3 des habitants de la capitale n'ont pas de voiture. Ce peuple non motorisé est bien heureux du retrait de 50 000 places de stationnement dans l'espace public en moins de 2 décennies. La grande majorité, environ 80 % des 800 000 emplacements restants, sont souterrains. Beaucoup de rues de la capitale ne sont plus encombrées de voitures, résume M. Labasse, qui demande de regarder les chiffres objectivement. À Paris, il y a une station de métro à tous les 600 mètres. Un nouveau réseau en construction, en petite et en grande couronne, va ajouter 68 nouvelles gares pour faire des quartiers périphériques, des espaces agréables à vivre. En additionnant les lignes de métro, de tramway et de RER construites entre 2020 et 2030 dans l'agglomération parisienne, on arrive à 169 nouvelles stations. Bientôt, 98 % des Parisiens vivront à moins de 2 km d'une gare, soit à moins de 10 minutes de trajet à vélo. Le moyen de transport numéro 1 à Paris, c'est quand même la marche, note M. Labasse. Il existe beaucoup de solutions alternatives à l'auto. Évidemment, c'est tout un défi pour les villes américaines d'évoluer dans ce sens. 7 pour toutes. Lui-même architecte, M. Labasse préside l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et dirige depuis 2 ans l'Atelier parisien d'urbanisme, structure pluridisciplinaire où travaillent quelques 70 géographes, urbanistes, sociologues et architectes. L'agence municipale collecte des données, publie des études, conseille les décideurs et engage des analyses prospectives. Évidemment, Paris se pense et se planifie depuis très longtemps, dit le directeur. La grande pensée qui a structuré la capitale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la phase haussmannienne qui, en fait, est assez courte, puisqu'elle dure de 1853 à 1870. En élargissant un peu en amont et en poussant jusqu'en 1900, on englobe plus de 60 % du patrimoine parisien et 60 % des voiries parisiennes. La structure est là et c'est elle qu'on a beaucoup vue pendant les Jeux olympiques. Monsieur Labasse a vécu l'euphorie sur place en assistant à plusieurs compétitions où il s'est rendu en vélo. Ces 15 jours ont célébré plus de 15 ans de travail pour rendre la ville plus accessible et plus mixte, résume-t-il, en multipliant les exemples. Les 180 kilomètres de pistes du tournant du siècle ont été depuis multipliés par 6. Le logement public et le logement social comptent pour le quart du parc immobilier et l'objectif est de hausser ce seuil à 30 %. Voilà donc aussi pourquoi Paris est belle. Que reste-t-il encore à faire, alors, pour l'embellir encore plus? Alexandre Labasse répond que le premier défi se concentre autour de la préparation au changement climatique. Il faut continuer à débitumer. On a planté 150 000 arbres ces dernières années et il en faut plus. Le second axe d'intervention concerne le foncier pour permettre aux moins riches de demeurer parisiens ou de le devenir, afin de maintenir la mixité urbaine. Le directeur précise que les 7 critères ciblés par ses experts marchent pour toutes les belles villes. Les plus belles sont recensées dans les palmarès récurrents où Paris arrive souvent en tête de liste. Le grand mandat des dirigeants grecs de l'Antiquité était de rendre leur cité plus belle, dit l'architecte en terminant. La question esthétique est fondamentale, mais ne repose pas seulement sur des caractéristiques formelles. Aujourd'hui, toutes les villes souffrent de défauts liés à l'automobile, qui est une parenthèse difficile dans leur histoire. À Paris, l'automobile arrive en 1905. C'est un siècle et ce n'est pas grand-chose. C'était « Qu'est-ce qu'une belle ville ?» un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 août 2024 dans Le Devoir.
Une ferme de Golden Retriever. Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 30 août 2024 dans La Presse. Si je devais classer les êtres vivants en fonction de l'amour que je leur porte, mon chat trônerait au haut de la liste. Viendraient ensuite une vingtaine de personnes, puis les chiens. Pas mal n'importe quel chien. Des êtres fidèles, qui ne cherchent que notre approbation et qui ont de drôles de petites fesses quand ils marchent vite. On ne les mérite pas. Bien au fait de mon adoration canine, mon amoureux m'a offert le plus beau des cadeaux il y a quelques mois. Et comme j'y repense un jour sur deux, je lance cette nouvelle chronique en vous refilant le tuyau. Vous aimez les pitous, les décors bucoliques et les virées dans le Vermont? Bienvenue à Golden Dog Farm. Becca et Doug Warple, respectivement photographes et publicitaires, vivaient à Cincinnati quand la pandémie les a plongés dans une remise en question. Vous connaissez la chanson. En mai 2020, ils vendaient leur maison pour rouler en véhicule récréatif à travers les États-Unis en espérant trouver une autre vie à habiter. Leurs critères étaient simples. Ils voulaient travailler dehors et posséder une demeure assez grande pour y vivre avec au moins 8 chiens. Mon genre de monde. 6 mois et plus de 27 000 kilomètres plus tard, ils arrivaient au Vermont, le lieu qui changerait tout pour eux. Alors qu'ils roulaient dans la ville de Stowe, ils ont croisé une camionnette. Une douzaine de Golden Retriever étaient sagement assis dans le coffre à ciel ouvert. Si Dieu devait m'envoyer un signe pour me dire d'habiter quelque part, ce serait certainement un camion plein de Golden Retriever, a aussitôt pensé Becca. Heureux hasard, Le couple a ensuite appris qu'une ferme du coin était à vendre. Le lieu était idyllique, mais pas conçu pour les néophytes. Les 275 acres comprenaient un vignoble, des arbres fruitiers, une érablière et des ruches. Doug voulait travailler dehors, oui, mais une seule de ses quatre expertises lui aurait suffi. Après quelques jours de réflexion, le couple en est arrivé à une conclusion. Ce n'est pas parce que toutes ces activités étaient possibles qu'il devait nécessairement les mener de front. Becca et Doug ont acheté la maison, puis ils se sont aussitôt lancés dans les quatre occupations en même temps. Un an plus tard, Becca a revu la camionnette remplie de Golden. Elle a alors fait la connaissance de Dana Men, cofondateur de l'élevage Butternut Golden Retriever. L'homme et sa femme, Suzanne, vivaient avec leurs 14 chiens adultes et deux portées de 22 chiots. Un rêve, selon Doug et Becca. Les éleveurs et les nouveaux fermiers se sont rapidement liés d'amitié, au point où les Warple ont permis aux Men d'orchestrer une rencontre chiot futur maître à la ferme. En voyant le bonheur que suscitait le contact entre les animaux et les humains, une idée leur est venue. Et s'ils invitaient des gens à jouer avec les chiens adultes du Butternut Golden Retriever? Niché au creux des Montagnes Vertes, à Jeffersonville, la ferme de Becca et Doug offre un panorama extraordinaire. Les propriétaires ont donc lancé une invitation sur leurs réseaux sociaux en septembre 2023. Lors des samedis d'automne, les volontaires pourraient venir s'amuser avec des Golden Retriever tout en profitant du décor enchanteur. Silence radio. Aucun intéressé. Puis, un matin, toutes les places étaient soudainement réservées. Un compte touristique du Vermont avait relayé l'annonce sur TikTok et l'offre était devenue virale. Depuis, chaque événement affiche complet. Et il y en a eu environ 200 depuis la naissance de ce qu'est aujourd'hui la Golden Dog Farm. Quand j'y suis allé, nous étions une trentaine de participants à attendre l'arrivée des chiens près d'une grange digne de Pinterest. Quand Dana et Susan ont garé leur camionnette, on a pu retenir nos cris d'excitation. C'est que les chiens quémandaient nos caresses dans le coffre arrière. Et on nous avait bien avertis. Il fallait en profiter, parce que dès qu'ils sortiraient du véhicule, ce serait pour courir jusqu'à épuisement. Les Golden se sont effectivement bien vite rués sur le terrain pour attraper les balles qu'on leur lançait. Pendant trois quarts d'heure, les pitous n'en ont fait qu'à leur tête. Plusieurs jouaient avec nous. Certains se couchaient à nos pieds, d'autres se rebellaient. Mention spéciale à ma préférée, Gina, qui a plongé dans un étang malgré les avertissements là et répétés de son maître. Elle finit tout le temps par y aller. Après environ une heure de jeu, le moment était venu de se reposer dans la grange. Des chiens se promenaient d'une personne à l'autre pour recevoir des caresses. D'autres choisissaient de se dévouer à une chanceuse élue. J'ai eu l'honneur d'être le coup de cœur d'une Gina dégoulinante. Puis, on a clos le tout avec une séance photo lors de laquelle Becca a immortalisé les sourires immenses. C'est ce bonheur qui nourrit la mission de Doug et Becca. Le travail de ferme est épuisant, mais leur terre est le décor d'une longue parade de visages heureux et de nombreuses célébrations, parmi lesquelles 9 demandes en mariage en un an. L'activité, unique en Amérique du Nord selon Doug, attire des gens de partout dans le monde. Certains ont fait le voyage d'Australie et d'Alaska simplement pour lancer la balle aux chiens. Puis, dans chaque groupe, on compte au moins un Québécois, estime l'entrepreneur. Le succès est tel qu'aux séances de jeu tenues 6 jours par semaine, s'ajoutent maintenant des dégustations de vin avec tendresse canine. Ce qui a commencé en remise en question pandémique est devenu une activité virale qui fait courir les foules. Et, si vous voulez mon avis, À 1 heure de la frontière américaine, Golden Dog Farm est l'endroit parfait pour constater encore une fois à quel point les chiens sont supérieurs à bien des humains. C'était Une ferme de Golden Retriever, un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 30 août 2024 dans la presse.
Danny Turcotte, porte-parole du Festival Montréal en art. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue. Pour sa 25e année, le Festival Montréal en art a invité l'humoriste et animateur Danny Turcotte à devenir son porte-parole pour ainsi souligner le quart de siècle de cette importante manifestation d'art visuel dans le village. Danny Turcotte est surtout reconnu pour son rôle de fou du roi dans l'émission « Tout le monde en parle » de 2004 à 2021, mais il a également été l'animateur d'une autre émission de télé, soit « La petite séduction » de 2005 à 2017, et est un ex-membre du groupe Sanguin. En 2023, donc tout récemment, il crée le documentaire « Le dernier placard, vieillir gay », dans lequel il participe à interviewer des personnes LGBTQ+ vieillissantes, et ce, en collaboration avec la Fondation Émergence. Depuis 2005, il est l'un des porte-parole de Gay Écoute, qui est devenu Interligne en 2017. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, il publiait dans la presse du 26 mai dernier tout un texte bien senti intitulé « Zombieville », où il aborde la question des drogues dures que sont les opioïdes à Montréal et de leurs effets néfastes sur les personnes dites vulnérables. Mais pourquoi est-il devenu porte-parole de cette 25e édition de Montréal en art? C'est un festival que je vois d'année en année et depuis plusieurs années déjà, dit-il. J'aime beaucoup le village aussi. C'est un festival qui démocratise l'art. Un festival qui remplit le village par la beauté de l'art, par ses artistes nombreux, par leurs œuvres d'art. C'est intéressant de pouvoir côtoyer les artistes, de pouvoir leur parler. On connaît tous les problèmes vécus par le village en ce moment, mais le festival a contribué à rendre la rue piétonne et à améliorer ainsi le village. Je fréquente ce festival depuis 25 ans maintenant. Et ce n'est pas rien, ce festival attire près de 100 000 visiteurs dans le village. Il y en a certains qui ont un peu peur des arts visuels, qui ne savent pas trop si l'en art contribue à rapprocher les artistes et les arts visuels de la population. Et lorsqu'on se promène, on voit clairement qu'il y en a pour tous les goûts. Si les œuvres de tel artiste ne te plaisent pas, tu vas peut-être aimer ce que te présente l'artiste du kiosque suivant. J'ai eu un conjoint, Alexis Martin, qui est un artiste peintre de l'Estrie. Il pouvait rester des heures et des heures à regarder le ciel, les nuages, qu'il transposait ensuite en peinture. Il y a beaucoup de subtilité et de lumière dans ses œuvres. C'est grâce à lui que je regarde encore les nuages, que j'ai appris à aimer les nuages, leur forme, leur luminosité en quelque sorte. En fin de compte, j'ai accepté d'être porte-parole de Montréal en art pour l'amour du village, pour l'amour du festival qui rend ainsi l'art accessible à tout le monde, note Danny Turcotte. Ils m'ont appelé et j'ai trouvé que ce n'était pas rien, ça, 25 ans, après tout, de faire de l'art comme ça dans la rue, de faire des activités artistiques, de voir des artistes à l'œuvre, d'attirer des familles, des personnes LGBTQ+, etc. On voit les difficultés que connaît le village, mais le festival vient contribuer à embellir le village par l'art. On sait aussi que le village est en pleine évolution, qu'il y a de l'avenir. Nous avons de la chance, les personnes LGBTQ+, de vivre dans une société qui évolue aussi, dans un pays ouvert aux réalités LGBTQ+, surtout comparé à ailleurs dans le monde où les droits se dégradent. Les villages LGBTQ+, sont presque tous tombés dans le monde, en partie à cause des applications de rencontres, et d'un autre côté, l'ouverture de la société, alors que les LGBTQ+ peuvent se rencontrer n'importe où maintenant. Et c'est très bien, c'est ce qu'on désirait. C'est ce pourquoi des gens comme Laurent McCutcheon, le défunt fondateur de la Fondation Émergence et d'Interligne, que j'ai rencontré, se sont battus. Je rends hommage à des gens comme lui et à tous ceux qui se sont battus pour nos droits. Lorsqu'on regarde le bar de renard dans le village où tout le monde se mélange, c'est ça maintenant le village, et c'est bien parce qu'on a la chance d'avoir encore un village. Est-ce qu'il est comme autrefois? Non, il évolue et il va continuer d'évoluer avec la construction d'édifices sur les stationnements de Radio-Canada, l'ancien terrain où était Da Giovanni, etc. Cela fait qu'il y aura de nouveaux résidents. Cela contribuera à revitaliser le village. Il a accepté cette offre également parce qu'au moins 40% des artistes sont issus de la diversité et je puis ça, souligne-t-il. Danny Turcotte mentionne qu'il ne faut pas oublier que si on a des piétonisations aujourd'hui, c'est en partie grâce au Festival Montréal en Arts, auparavant connu sous le nom de Festival des Arts du Village, qui a insufflé l'idée de ces rues piétonnes lorsqu'il a fait fermer la rue pendant quelques jours pour la tenue de cet événement au début des années 2000. Cela, en partie, a servi de modèle pour les autres piétonisations d'aujourd'hui. C'était une première à l'époque, lance-t-il. Et y aura-t-il des apparitions de Danny Turcotte cet été lors d'événements ou de soirées? Eh bien non. Danny Turcotte se consacre à l'écriture. Il y aura tout d'abord sa biographie qui sera lancée au mois de septembre aux éditions La Presse. Mais je suis aussi en train de travailler sur un roman. C'est très excitant parce que c'est toi qui inventes tout. C'est toi qui décides de tout. Tu joues à Dieu, presque, ici. C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je suis très content, dit-il. Ce premier roman de Danny Turcotte devrait sortir cet automne. Je travaille tous les jours, 2 à 3 heures par jour, souligne Danny Turcotte. Cela m'occupe à plein temps. Pour moi, l'écriture est quelque chose de solitaire. Mais j'ai toujours écrit tous mes textes. J'écrivais mes petites fiches lorsque j'étais à Tout le monde en parle. Je crois qu'il faut profiter de la vie parce que j'ai vu beaucoup de mes amis partir. Je suis heureux comme ça. J'ai quitté Tout le monde en parle parce que j'étais malheureux. Maintenant, je vis en étant heureux avec l'écriture. C'était Danny Turcotte, porte-parole du Festival Montréal en art. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue.